C'est une question qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si vous avez programmé à un moment donné quand même de revenir un peu sur quelques difficultés qu'on rencontre si une fois on se lance dans un tel type de domaine. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles on doit s'attendre? Parce que on parle de relations internationales. J'ai comme l'impression que vous nous présentez un peu le système des relations internationales, les services. Mais après, nous, peut-être, je ne sais pas, c'est l'impression. Enfin, moi, c'est ce que j'attends. Moi, je suis en train de faire une thèse, plus labo, plus, comme elle a dit, paillasse. Après, bon, l'idée, c'est de savoir aussi quelles sont mes possibilités d'aller travailler à l'international. Donc, quelles sont, dans ce cas concret, quelles sont, par exemple, les difficultés auxquelles je peux être confronté.
Je ne sais pas si je... En tant que chercheur ?
Oui, en tant que chercheur, voilà, dans mon domaine. Quoi.
La difficulté, je vais dire, va peut-être résider surtout dans la recherche et l'acquisition de financement pour pouvoir faire... Enfin, mener le projet, le faire aboutir, le concrétiser. Donc c'est vrai que c'est une part de travail, enfin, peut-être que vous faites aussi déjà, la recherche de financement, que ce soit pour votre thèse, pour votre projet de recherche, ou que vous avez vu les équipes proches de vous le faire. Donc c'est vrai que des fois, on a quand même, on va dire, la très bonne idée, on a envie de travailler avec une certaine équipe. Alors, la difficulté, c'est que peut-être que vous n'allez pas être dans la politique de l'établissement. Donc, je prends un exemple, je vais dire vraiment n'importe quoi. Vous êtes à l'UMA 1, l'UMA oriente donc voilà vers les pays francophones, vers le pourtour méditerranéen. Et vous, voilà, vous êtes parti en congrès aux États-Unis, par exemple. Vous avez rencontré des collègues mexicains sur lesquels vous avez vraiment trouvé un intérêt à travailler ensemble et vous revenez voir Jean-Paul Fernandez. Oui, voilà. Et vous revenez voir Jean-Paul Fernandez en disant « J'ai une super idée, j'ai rencontré des mecs géniaux aux États-Unis et on veut, mais ils sont mexicains et j'ai envie de travailler avec eux. Donnez-moi des sous pour faire venir mes collègues. » Et là, Jean-Paul va vous dire « Ah ben, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi, le Mexique, ça ne m'intéresse pas. » Comme il vous a dit, l'UMA n'est pas dans le saupoudrage de ses moyens. Donc ça va être une certaine difficulté. Donc une difficulté, mais qui pourra être pour vous aussi un challenge en montrant aussi à ces institutions qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là avec les Mexicains. Donc ça va pas être, on va dire, immédiat, pas comme si vous disiez finalement voilà, moi j'aimerais monter une collaboration avec le Maghreb, là peut-être que Jean-Paul va vous dire banco, je te donne 10 000 euros. Voilà, donc c'est la difficulté, elle est là, c'est de croire en son projet et de pouvoir aussi, à un moment, convaincre les institutions. Et je dirais, on peut prendre aussi le problème dans le sens inverse, c'est que en connaissant assez correctement la politique de votre établissement, du pays aussi, parce que voilà, la France oriente aussi ses relations au niveau recherche. Hein, je reste au niveau recherche, donc vers certains pays. Concrètement, on a le président Nicolas Sarkozy avait clairement affiché sa priorité sur la Méditerranée. Donc là, vous savez que si vous êtes dans la bonne problématique, sur le bon pontour, ça sera quand même vachement plus facile, quoi. Donc c'est vrai que je trouve que la difficulté, elle est souvent là, de pouvoir faire coller vos projets de recherche, vos attentes en tant que chercheur avec une politique institutionnelle au sens large. Il y a eu aussi l'inverse, donc quand j'étais au Chili, des universités chiliennes qui voulaient travailler sur tel secteur avec la France. Pas de bol, c'était pas la priorité de la France de travailler sur ce secteur-là avec le Chili. Donc voilà, et je pense que la difficulté, elle est vraiment là. Ou alors, voilà, des fois, vous avez le bon projet qui pourrait être avec le bon secteur, mais vous ne connaissez pas forcément les réseaux aussi avec le pays dans lequel nous, on voudrait établir plus de relations. Et c'est là, en fait, que le service des relations internationales, qui a établi cette cartographie, qui a aussi tout l'historique des relations passées de l'université avec une certaine partie du monde, peut vous dire, bah voilà, il y a peut-être 5-10 ans, on a établi une collaboration avec telle université, tel centre de recherche dans tel pays. Moi, j'ai encore un contact là-bas, tenez, peut-être essayez de vous mettre en contact avec les gens qui sont là-bas. Donc ça va aussi servir à ça. Enfin, moi, là, en tout cas, la difficulté, je la vois à ce niveau-là. Peut-être après, il y en a d'autres.
Oui, il y a deux types de difficultés. Tout ce qui vient d'écrire Ingrid, c'est une difficulté sur un projet avec lequel donc vous vous y êtes et aussi votre responsable de thèse. Donc ça, c'est pour continuer un projet de recherche. Ensuite, la difficulté, et peut-être c'est ce que vous souhaitez entendre, c'est l'après-thèse. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Où je vais? Sur la première, donc Ingrid vous a donné des solutions, effectivement, suivant la politique définie au niveau de l'université avec le président d'université. Donc on peut aider ou contribuer à aider donc le projet de recherche. À cela s'ajoute aussi donc une des fonctionnalités des services des relations internationales, d'aider le chercheur à rechercher dans les programmes européens des financements. Voilà, donc il y a une veille, et puis il y a donc des programmes de financement au niveau de certains axes de recherche. Ensuite, après, donc la difficulté plus personnelle et qui intéresse tout le monde, vous, nous aussi, enfin moi, en tant que parent, donc c'est l'avenir de nos enfants et le travail en bout de chaîne. Donc là-dessus, la seule chose que l'on peut vous donner, on a commencé un peu à vous donner, ce sont des pistes de postes qui peuvent être mis en place pour vous au-delà de tout le côté privé, système privé. Donc là, il y a toutes les boîtes industrielles à laquelle vous pouvez prétendre, mais aussi donc après dans la fonction publique, comme je vous l'ai dit, Ingrid vous a donné l'adresse, mais je crois qu'on peut peut-être vous la faire passer par contact, puisqu'il y a bientôt des postes qui seront mis au concours. Sachez que ces postes-là, il n'y en a pas que dans les universités, il y en a aussi actuellement, là il y a une affiche qui circule, je ne sais pas combien de postes à l'INRA, il y a pas mal de postes aussi qui... Ah non, pour les catégories A, il n'y a pas aucune restriction de nationalité. Donc vous pouvez concourir à ces postes, ce sont des concours. Hein. Ensuite, après, nous... Je crois que ça finit le 15 mars. C'est en cours, hein, actuellement. Ah, c'est 15 février ou 15 mars, je ne me rappelle plus, j'ai vu une affiche. Où j'en étais. Oui, n'oubliez pas aussi donc qu'il y a, comme a fait Ingrid, au MAE, il y a chaque année donc des propositions du ministère des Affaires étrangères. Là aussi, ce sont des postes qui ne durent qu'un temps, mais qui vous permettent d'acquérir une compétence supplémentaire. Et le parcours est intéressant, puisqu'après cette compétence supplémentaire, elle a pu postuler à un concours d'ingénieur de recherche. Donc, c'est ces deux types de difficultés. Un, c'est le labo, et là, le service des relations internationales, avec le service de la recherche, donc peuvent aider et apporter une aide pour avoir des financements européens. Ensuite, après, donc, c'est pour vous, pour votre carrière. Là aussi, je pense qu'au niveau des universités, au niveau de contact même, il doit y avoir des ateliers qui sont faits sur les emplois. Il y a, je sais, des collègues qui travaillent, il y a un service à Montpellier 2, il y a un service à Montpellier 1 sur l'insertion professionnelle. Depuis la loi sur l'enseignement supérieur de 2007, c'est acté dans la loi et chaque université donc doit avoir un service d'insertion professionnelle. Donc là aussi, c'est à voir avec eux.
Je précise juste quelque chose. C'est sûr qu'on a quoi, une heure et demie pour vous présenter ça. C'est clairement pas suffisant. Donc, enfin moi en tout cas, je suis prête à, si vous avez des questions plus précises, à les recevoir par mail ou à vous recevoir directement. Il y a vraiment aucun souci. Je vous laisserai mon adresse électronique parce que je vais devoir pas tarder à y aller là. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, il existe une possibilité. Alors là, par contre, à vérifier, mais je crois que c'est vraiment pour les gens de nationalité française. Pour les moins de 28 ans, au moment de la postulation, donc de faire un VI, donc un volontariat international en administration, dans les ambassades ou dans les organismes français à l'étranger. Sachez, donc ici sur le site cvweb.fr ou .org ou .com, un truc voilà, dans le genre. Il y a également ces mêmes types de contrats dans les entreprises à l'étranger, donc il y a le volontariat international en entreprise, le VIE. Donc n'hésitez pas à les regarder, parce que regardez peut-être déjà les profils donc de postes qui sont demandés. Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Je sais que là, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un profil de journaliste scientifique à l'ambassade d'Italie à Rome, donc de pouvoir vraiment diffuser la recherche française au niveau italien et inversement en fait.
C'était une question rapide sur les difficultés. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de travail administratif et aussi juridique. Ça, c'est des choses que, enfin, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais abordé. Même en regardant les formations de la MED, les choses extra-scientifiques, c'est sur du management, de la gestion de projet, ça. Et donc, ces compétences-là, vous les avez apprises sur le tas, avec des formations organisées ?
Vous avez un compte en banque ? C'est vous-même qui le gérez ? Vous le vérifiez ? Vous le vérifiez ? Vous savez faire entrée et débit ? Donc vous avez déjà les premières bases de la comptabilité. Vous n'êtes pas trop souvent à découvert ? Donc vous avez quelques sens du juridique. Donc si vous voulez, ça s'apprend sur le tas, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cela.
Oui, c'est vrai, en fait, il y a des compétences dans ces métiers-là qu'on nous demande, et quand on a fait que de la recherche, enfin que, sans que ce soit péjoratif, que de la recherche, forcément on les a pas. Mais dites-vous bien, quand vous êtes dans un service, quel qu'il soit, hein, moi je suis à la direction de la recherche, Jean-Paul est aux relations internationales, nous sommes donc des métiers support de la recherche, mais nous sommes nous-mêmes supportés par d'autres métiers support qui sont justement les métiers juridiques dans le cadre de mon travail au quotidien. Donc c'est pas dans les relations internationales, mais quand j'ai des contrats à faire passer entre l'université Montpellier 2 et IBM, je vais voir mon collègue de la direction des partenariats en disant « On a ça à monter, tiens, j'ai eu un projet de convention, lui va le lire parce que lui, il est juriste. Enfin, une personne dans son service est juriste, a les compétences pour. Moi, je vais pouvoir lui traduire en opérationnel les objectifs politiques, stratégiques que la présidente m'aura fixé, m'aura donné. Et il y a toujours une fonction support. Et en voyant, en communiquant, en interagissant tous les jours avec ces personnes-là, vous allez acquérir petit à petit, jour après jour, ces compétences qui vous manquent. Vous n'allez pas être spécialiste du droit, c'est pas vrai, je ne vais pas vous mentir. Mais un petit peu de temps après, genre au bout de quelques mois, vous aurez aidé à établir ces conventions, bah vous saurez que l'essentiel d'une convention, il faut que ce soit gagnant-gagnant, donc il ne faut pas que votre université soit perdante, ni que le partenaire en face le soit perdant. Donc, et qu'il y a de fait, de par la loi française, certaines choses à respecter de fait. Donc bah voilà, c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme vous, enfin je sais pas s'il y a, y a certaines personnes ici qui sont en contrat doctoral par exemple, bah voilà, il y a c'est quelque chose de la loi, vous pouvez pas faire des vacations, mais c'est comme ça, mais voilà. Donc c'est vraiment, on apprend quoi, je veux dire, on apprend tous les jours. Il ne faut pas avoir peur de ça, on apprend sur le tas. Et dans le cas de votre carrière, il y a aussi des formations qui vont être là pour vous aider justement à acquérir un petit minimum de connaissances sur une certaine compétence. Mais évidemment, vous n'avez pas postulé sur un poste de juriste, ça serait complètement aberrant. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu. Ça n'a jamais été un frein sur des métiers de support direct à la recherche. C'est jamais un frein si vous n'êtes pas comptable, juriste, que sais-je, quoi. C'est pas du tout. Et comme dit Jean-Paul, vous n'êtes pas découvert sur votre compte, vous ne serez pas découvert sur les comptes de l'université, c'est pareil.
Quand on a un projet professionnel, je trouve ça intelligent de... C'est-à-dire... Bon, je ne sais pas comment la poser... Est-ce que c'est nous les mieux formés pour faire ce que vous proposez de faire ? C'est-à-dire, si on fait une thèse scientifique de 3 ans, moi, a priori, je suis beaucoup mieux formé pour faire de la génétique que des relations internationales. Et est-ce que c'est la voie royale, ou est-ce que j'entre par la petite porte en faisant quelque chose, en me détournant un peu de mon projet initial ? Et est-ce que je ne vais pas me retrouver sur un marché, il y aura plein d'autres personnes beaucoup mieux formées que moi sur tout ça ? Est-ce que je vais apporter un truc super ou pas? Ou est-ce que c'est juste une voie d'accéder là-bas?
Donc c'est évidemment une des voies d'accès parce que effectivement vous allez vous retrouver en compétition, on va dire, avec des gens qui auront fait Polytechnique, Sciences Po, je sais plus quoi, voilà, qui auront fait relations internationales, enfin vraiment parcours relations internationales. Genre moi je me rappelle quand je suis arrivée à l'ambassade la première soirée, ça a été assez affligeant parce que je suis arrivée et puis j'étais entourée de gens qui avaient fait l'ENA, Sciences Po et tout ça, et puis c'était vous venez d'où? Alors moi naïvement je raconte ma vie, je suis née à La Réunion, je fais mes études à Montpellier, j'étais là, ils me regardaient mais genre ma pauvre fille quoi. Et en fait c'est vrai que c'est on est en compétition avec ces gens là mais ces gens là n'avaient pas la connaissance que j'avais du système de recherche français. Ils connaissaient parfaitement la géopolitique, alors ça genre sur le pays dans lequel on était, ils étaient incollables quoi. Effectivement moi sur le Chili j'arrivais, je parlais un peu espagnol, point quoi. Avant d'aller au Chili, je savais même pas où ça se trouvait, quoi. Donc c'était vraiment voilà. Mais et j'avais donc la connaissance de ce de mon cœur de métier qui était la recherche de mon pays et surtout en fait j'avais aussi du coup. Enfin, de ce fait-là, la confiance de mes homologues dans les pays, quoi. Genre, un chercheur va plus facilement parler à son homologue chercheur qu'à un énarque. Genre, un énarque, il va même pas comprendre. Enfin, on se comprend pas, en fait. Donc, en fait, c'est ça qui est bien, que ce soit dans une entreprise, une institution, peu importe. C'est que finalement, on est vachement complémentaires parce que, genre, l'énarque qui aura la parfaite connaissance de la géopolitique, il va m'apporter certains éléments justement politiques sur le pays en disant sur tel domaine c'est pas trop la France n'a pas orienté ça là-dessus, il s'est passé tel truc dans le pays donc évite d'aborder tel sujet, voilà ce genre de choses, mais on est ultra complémentaires et je pense pas que les énarques ou autres vont continuer à ils nous piquent pas nos boulots, quoi. C'est pas du tout ça. Et surtout que au ministère des Affaires étrangères, en tout cas, depuis, mais depuis que Kouchner a été et entré, c'est vrai qu'il y a eu une ouverture des métiers où justement, la vague dans laquelle je suis arrivée et celle d'après, ça continue. Au métier d'attaché scientifique, donc chargé de coopération scientifique, ils mettent des chercheurs maintenant. Ils ont viré tous les autres et ils ont mis à d'autres postes, donc à des postes qui correspondent à leurs compétences, parce qu'il en faut, mais ils ont mis des chercheurs qui connaissent, on sait de quoi on parle, quoi. On parle d'organismes français, de recherche, on sait de quoi on parle. Donc pour pouvoir expliquer comment se passent les études à un doctorat en France, je veux dire, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui a vécu ça, quoi. Pas mieux du tout. Donc c'est pas la petite porte, c'est pas la grande porte, c'est la porte. C'est une des portes, en fait. Donc, après, je vous dis pas que si peut-être que vous allez suivre un module de la MED, je sais pas si elle en existe actuellement, ou peut-être à côté ou après votre thèse, en disant, bah tiens, peut-être que si je faisais 6 mois d'un diplôme universitaire sur les relations internationales, ou que je me spécialisais dans un truc, ça va. Ce sont des choses qui vous apporteront une compétence en plus, un petit plus sur votre CV par rapport à deux, on va dire, à compétences égales sur un domaine scientifique. C'est sûr que je vais recruter la personne qui aura peut-être fait plus un séjour dans un pays à l'étranger parce qu'il saura aussi comment ça se passe que quelqu'un qui a rien fait du tout, quoi. Ou qui a pas le petit diplôme en plus qui fera la différence. Mais c'est vraiment pour moi... tout le monde a ses chances parce qu'on a tous des compétences et des qualités différentes et des défauts aussi donc, par rapport à ces métiers-là. Donc des manques, des lacunes.
N'oubliez pas que votre spécialité, c'est votre atout. Conservez-le et travaillez un peu dans votre spécialité. Là, vous allez acquérir encore plus de renommée. Faites des publications aussi. L'international, comme l'a dit Ingrid, effectivement, donc, j'ai bien beaucoup aimé son appréciation des énarques et je la rejoins totalement. On en côtoie, vous verrez, vous en côtoierez, peut-être vous en avez déjà vu. C'est vrai que c'est une population à part. Continuez dans votre domaine, essayez de voir effectivement avec contact. Je pense qu'il doit y avoir des petits déj ou peut-être venir à ce moment-là pour dire un peu l'insertion professionnelle, parler de l'insertion professionnelle et des post-doctorants. Mais surtout, continuez à passer votre thèse, faites des publications et faites beaucoup de choses aussi autour. N'oubliez pas aussi que tout ce que vous ferez en associatif est très important. La culture d'aller vers l'autre, comme on en parle depuis tout à l'heure, c'est beaucoup apprécié à l'international.